Le journal présenté par Stéphane Genest.
Bonsoir à toutes et à tous. Pendant 9 jours, le centre des expositions de la Porte de Versailles se transforme en ferme géante. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce matin. Emmanuel Macron déambule dans les allées du salon. Depuis ce matin, donc, il était attendu par les agriculteurs. Diane Berger les a rencontrés. L'épidémie du coronavirus n'en finit pas de s'étendre. L'Italie a annoncé ce matin un deuxième décès dû à la contraction de la maladie. Conséquence, les autorités ont fermé les lieux publics d'une dizaine de villes au nord du pays. Nous ferons le point sur la situation. Les Togolais sont appelés à se rendre aux urnes aujourd'hui. Une élection présidentielle sans grand suspense qui devrait assurer au président sortant, Faure Gnassingbé, un quatrième mandat. Nous retrouverons notre correspondant sur place. Et enfin, le musée du Louvre joue les prolongations ce week-end. Il s'agit là de votre dernière chance pour admirer la plus grande exposition Léonard de Vinci jamais réalisée. Notre reporter l'a visitée pour vous. C'est l'événement incontournable du mois de février à Paris. Le salon de l'agriculture, il a ouvert ses portes ce matin. Près de 650 000 personnes sont attendues jusqu'à dimanche prochain pour arpenter les allées de ce qu'on appelle couramment la plus grande ferme de France et rencontrer Ideal, la vache égérie du salon. Ce matin, c'est Emmanuel Macron qui a inauguré la 57e édition de l'événement. Le président de la République arpente actuellement les allées du salon. Il a tenté de rassurer les agriculteurs. Au lendemain de l'échec des négociations européennes cruciales sur le financement de la PAC, la politique agricole commune. Dès son arrivée, le chef de l'État a été interpellé par les agriculteurs afin qu'ils obtiennent des réponses quant à leurs inquiétudes. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir Stéphane.
Vous vous êtes rendu au salon d'agriculture et au-delà des paroles d'Emmanuel Macron, les agriculteurs que vous avez rencontrés attendent des actes concrets de la part de l'exécutif.
J'ai rencontré par exemple Nicolas Lassalle. Rien à voir avec le député du même nom, mis à part le Béret et la région d'origine. Il est éleveur de vaches Gascogne dans les Pyrénées et il aurait aimé s'entretenir avec Emmanuel Macron. Macron ce matin.
Moi je comptais parler avec lui un petit peu comme l'an dernier où il avait passé très de temps au milieu des éleveurs bovins. Cette année, il a vu la vache idéale et hop, disparu. Il a peur ou quoi? Ah mais moi j'aurais aimé lui demander pour voir pour ce budget de la PAC où il en était aujourd'hui, puisqu'on nous a dit que la commission prévoyait un budget de l'ordre d'une baisse de 15-20%. C'est très inquiétant pour notre soutien à l'élevage.
En effet, la PAC, la politique agricole commune, représente 80% de son budget actuel. C'est un problème aussi pour Éric Lebourré. Entouré de ses vaches armoricaines, une espèce rare, couleur chocolat, il s'inquiète également d'un autre problème, les inégalités dans le secteur entre producteurs et distributeurs. Malgré la récente loi Egalim, censée rendre tout le système plus juste, il aimerait donc des efforts en plus de la part du président.
Qu'ils nous disent qu'il allait regarder les prix qui étaient pratiqués, simplement, pour qu'on puisse vivre notre métier, voilà. Aujourd'hui, on est quand même dirigé par des grands groupes industriels, que ce soit au niveau du lait, de la viande, ou de la volaille, ou du porc. Mais aujourd'hui, tout le monde pourrait se nourrir sainement, à prix correct. C'est toute la chaîne jouer le jeu. Voilà tout simplement ce que je voulais dire aux hommes politiques aujourd'hui.
La PAC, le prix de vente des produits, mais aussi la défiance d'une partie de la société. Marielle Cousian élève des porcs en Bretagne. Et pour elle, les déclarations de l'exécutif sur l'agribashing, c'est bien sympathique, mais ce n'est pas suffisant.
Je pense qu'il doit agir plus vite là maintenant pour empêcher que ça prenne un tournant dramatique. Parce que les éleveurs sont prêts aussi à se défendre. Et ils vont pas se laisser marcher sur les pieds. Arrivé un moment, on ne veut pas être dénigré par des associations qui mélangent tout. On n'a rien à cacher, mais on veut quand même être protégé.
Dans son viseur, les associations antispécistes comme L214, elles souhaiteraient les voir plus lourdement sanctionnées quand elles s'introduisent dans les élevages.
Merci beaucoup Diane Berger. L'épidémie du coronavirus continue de s'étendre. Ce matin, l'Italie a annoncé un deuxième décès dû au virus. Les autorités ont d'ailleurs décidé de fermer les lieux publics d'une dizaine de villes au nord du pays. Au total, ce sont près de 50 000 habitants qui sont priés de rester chez eux. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, s'inquiète quant à elle de la difficulté à enrayer le virus. Bonsoir Cosima Mezidialem.
Bonsoir Stéphane.
Est-ce qu'on peut parler de surréaction de la part des autorités italiennes?
Eh bien Stéphane, c'est un entre-deux. Pour comprendre ce qui se passe, j'ai contacté le professeur Antoine Flao, c'est le directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. Selon lui, les autorités italiennes tentent de rassurer la population en déployant un arsenal de mesures fortes, comme la fermeture des écoles ou des espaces publics.
Les rassemblements sont aussi des lieux où peuvent se développer le coronavirus, où le confinement dans un espace clos pendant plusieurs jours est un vrai bouillon de culture qui favorise fortement la progression de l'épidémie. Donc l'idée de limiter les rassemblements n'est pas non plus une mesure stupide, c'est aussi une mesure qui a connu son efficacité. Encore une fois, on navigue.
Une décision finalement pas si disproportionnée que ça. Une quarantaine de cas ont été recensés en Italie, mais aussi dans d'autres pays que la Chine. Des cas atypiques que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'arrive pas à comprendre.
Aujourd'hui, il y a des multiplications de foyers préoccupants en Corée du Sud, au Japon aussi, à Singapour, dans d'autres endroits du monde, et aussi une sorte d'essaimage de cas qui ne sont pas des voyageurs revenant de Chine, donc qui montrent qu'il y a une circulation interne en Iran, au Liban, en Israël, des cas qui ne sont pas très connectés avec les foyers chinois. Donc c'est une source de préoccupation épidémiologique naturelle.
L'OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. Elle a fait des recommandations pour les pays concernés, mais qui ne sont pas toujours appliquées, explique le scientifique.
Il faut quand même reconnaître que quand l'OMS a pris des recommandations jusqu'à présent, elles n'ont pas été suivies par les États membres signataires du règlement sanitaire international. Aujourd'hui, en l'absence de recommandations, les pays prennent des décisions, les uns ou les autres, essayent de réagir également, certainement à titre politique, pour montrer à leur population qu'ils font quelque chose.
Antoine Flahaut s'étonne même que l'OMS n'ait pas critiqué les mesures de quarantaine du navire The Diamond Princess, qui, je le rappelle Stéphane, est le plus grand foyer de contagion hors de Chine.
Merci beaucoup Cosima Mezidi Alem. Hors de Chine d'ailleurs, le nombre de contaminations bondit, notamment en Corée du Sud où la situation est grave, d'après le Premier ministre. Dans la péninsule sud-coréenne, 229 nouveaux cas ont été détectés, notamment chez un employé d'une usine Samsung, usine dont l'activité a été suspendue. L'Iran aussi fait face au coronavirus. Les écoles, les universités et les centres éducatifs dans deux villes où ont été enregistrés les deux premiers cas de coronavirus dans le pays ont été fermés tout le week-end. En Iran, d'ailleurs, où les conservateurs sont en tête, selon les premiers résultats des élections législatives publiées dans l'après-midi, les résultats définitifs de ce scrutin seront connus au plus tard demain. Le président turc Recep Tayyip Erdogan annonce la tenue d'un sommet le 5 mars avec les dirigeants russes, français et allemands. L'objectif de cette rencontre, d'après le président turc, est d'évoquer la situation dans la province d'Idleb, dernier bastion rebelle dans le nord-ouest de la Syrie. Au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé, soutenu par ses pairs ouest-africains et la communauté internationale, vise un quatrième mandat après avoir passé 15 ans au pouvoir, tandis que son père est resté, lui, 38 ans à la tête du pays. 3,5 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes aujourd'hui et doivent choisir entre 7 candidats. Mais l'opposition et les militants de la société civile dénoncent les conditions d'organisation d'un scrutin jugé opaque et vicié. Et comme à chaque élection, les candidats achètent les électeurs en leur offrant toutes sortes de cadeaux. Au Togo, le reportage de François Hume, Ferkataji.
Lors de son passage au marché central de Lomé, un candidat a distribué des boîtes de médicaments. Une vendeuse passe la tête entre deux pagnes et raconte.
On nous a distribué des cadeaux. Si nous avons des petits problèmes de santé, on peut prendre ça avant d'aller à l'hôpital.
Le parti au pouvoir, l'UNIR, est particulièrement visé par les accusations d'achat de conscience. Ce jeune homme affirme avoir assisté à des dons de 3,50 € lors de la campagne électorale.
Dans la campagne, beaucoup de personnes soutiennent Faure Gnassingbé, mais on est en train de flatter les gens à cause de 2 000 francs CFA. C'est à cause de ça que les gens les suivent. Sinon, dans leur cœur même, là, c'est la souffrance qui les bat là-bas chaque jour.
À une centaine de kilomètres de la capitale, dans le village de Vaughan, ce professeur se dit fatigué par ses manœuvres politiques. Cette année, il n'ira pas voter.
Moi, j'aimerais bien voter par ma conscience, mais ne pas être suivi par quelqu'un d'autre, parce que c'est ma dignité. Par exemple, on te donne un sac de riz, alors que ce sac de riz, tu vas le manger pendant combien de mois? Un mois, deux semaines, ça suffit là-bas. Alors que notre éducation...
Au Togo, malgré une croissance dynamique, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Au Togo, donc le reportage de François Hume, Ferkataji, où les habitants choisissent actuellement leur nouveau président. Les deux fils de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak ont été acquittés par le tribunal pénal du Caire. Ala et Gamal Moubarak étaient jugés dans le cadre d'une affaire de manipulation boursière. Après la chute de leur père à la faveur du printemps arabe en 2011, plusieurs procédures judiciaires avaient été déclenchées contre l'ex-chef d'État et ses proches. Une nouvelle crise touche la CDU en Allemagne et ce au sujet d'un projet d'alliance régionale avec l'extrême gauche. Une crise pour le parti conservateur d'Angela Merkel qui survient quelques semaines après une autre polémique. Cette fois autour du positionnement du parti à l'égard de l'extrême droite. Les responsables du mouvement évoquent une crise de confiance dans les rangs de la CDU. C'est la plus grande exposition jamais réalisée autour de Léonard de Vinci. Depuis le 24 octobre, les 160 œuvres du génie italien ont déjà séduit plusieurs centaines de milliers de personnes. Et pour les trois derniers jours, le musée du Louvre a décidé d'ouvrir son musée toute la nuit. L'exposition sur le maître toscan est donc ouverte quasiment 24 heures sur 24. En revanche, ne cherchez pas des places, les 30 000 réservations sont parties en quelques minutes sur Internet. Valentin Dunat s'est glissé dans la foule la nuit dernière.
De Vinci, la nuit, c'est comme partager l'intimité d'un génie. C'est en tout cas ce qu'a ressenti Géraldine, qui fait partie des 30 000 chanceux.
C'est très beau. Il y a des émotions sur les visages, en particulier sur les visages de femmes, qui sont très belles, qui sont parfois énigmatiques, qui sont parfois très tendres. C'est un Leonardo que j'avais jamais vraiment remarqué comme ça. Mais je trouve ça formidable qu'ils ouvrent comme ça 24 heures sur 24 et que ça soit gratuit en plus la nuit. C'est vraiment extraordinaire.
Évidemment, c'est le but de l'opération, faire plaisir aux passionnés du génie italien et à tous ceux qui n'ont pas pu voir cette exposition. Jean-Luc Martinez est le président directeur du musée du Louvre.
La nuit, se retrouver tout seul dans un musée, c'est un moment très particulier. Alors c'est ce privilège-là qu'on a voulu offrir à nos visiteurs pour les remercier et parce qu'on croit que le musée doit inventer de nouvelles manières de vivre.
D'autant que l'année 2019 n'a pas été une grande année pour le Louvre, 9,6 millions de visiteurs, soit 600 000 personnes de moins que le record enregistré en 2018.
La météo de demain matin, le ciel sera couvert sur le nord du pays. Au sud de la Loire, du soleil et de très belles éclaircies.